si vous nous rejoignez maintenant dans la deuxième et dernière partie de la Grande Table. Dans l'actualité des idées, aujourd'hui, l'art se met au vert. Et les artistes peuvent-ils, par la création, contribuer à la prise de conscience de l'urgence écologique? Reformulée par notre première invitée, la question devient « Comment vivre dans un monde malade sans simplement y survivre ?» Et de ce monde malade, que faire pour qu'il recouvre la santé? Bonjour Paul Ardenne.
Bonjour.
Critique et historien d'art rattaché à l'Université d'Amiens. Votre nouvel ouvrage, « Un art écologique, création plasticienne et anthropocène » vient de paraître aux éditions du Bord de l'eau, préfacé par le philosophe Bernard Stiegler, auteur de « La technique et le temps » chez Fayard et de « Qu'appelle-t-on penser au lien qui libère ?» Penser avec un A pour soigner. Bernard Stiegler, bonjour.
Bonjour.
Ouvrage dans lequel vous faites le constat de l'immense régression qui nous accable. Avant de penser avec un A, avant de penser avec un E, il nous faut ouvrir les yeux. Ne vous êtes-vous jamais arrêté pour voir la terre qui pleure et les rivages éplorés? Qu'avons-nous fait au monde? Regarde ce que nous avons fait. What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing fields? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever stop to notice crying earth this weeping shore? De cette chanson, vous écrivez Paul Ardenne, loin de la bluette, Earth Song prend les accents de tragédie musicalisée. Le vidéoclip de sa chanson, Café, réalisé Jackson, implacable dans son contenu, montre sans ménagement la puissance novice de l'inhumain en matière écologique. Elle est là, l'immense régression. Elle est là aussi la vision navrée et désolée de ce qui nous entoure. Michael Jackson qui convoque artistiquement la forêt hein, dans cette chanson.
Oui, j'ai mis en exergue un extrait de cette chanson Earth Song qui date de 95, donc bientôt un quart de siècle. Cet exergue et beaucoup d'autres, enfin quelques autres, bien évidemment, parce que en 95, il avait été tenté une évaluation avec cette chanson qui parle de bon des drames de l'environnement, des souffrances que l'humain fait donc impose donc à la planète. On voit des scènes de déforestation, des massacres d'éléphants, des choses extrêmement violentes, des populations complètement assujetties par la sécheresse croissante, l'avancée des déserts, etc. Et on s'était demandé quelle est la portée, justement, d'une chanson comme celle-ci, qui a eu un succès planétaire. Et la réponse est assez décevante, en fait. Décevante, pourquoi ? Parce qu'au fond, cela reste un spectacle. Ça reste une œuvre, évidemment, très émotionnelle, bien sûr, magnifique, magnifiquement chantée. Le clip est également magnifique, bien sûr. Mais nous regardons cette œuvre comme un spectacle. Et sans réellement nous investir dans ce qui est dit, sur le mode d'une déploration qu'on appelle aujourd'hui un peu solastalgique. Hein, c'est un terme qu'on a créé, solace, la demeure et la nostalgie. C'est-à-dire être mal, y compris chez soi. Ne pas se sentir bien, y compris chez soi. Et on retrouve ici ce qui est un des grands problèmes de l'art, notamment les arts visuels, les arts plastiques sont des arts de l'image. Quand ils parlent de l'écologie, qu'ils veulent s'engager dans le combat environnemental, le grand problème, c'est très précisément la question de la fascination. Une fascination morbide, une fascination déjà pointée au XVIIIe siècle par quelqu'un comme Edmund Burke, par exemple, sous le thème de l'horreur délicieuse, qui fait qu'au fond, on regarde, on s'accable, et ça produit un effet cathartique qui fait que après, bien, on repart dans la vie, mais sans avoir, en quelque sorte, agi. Et ce qui, pour moi, est important, en tout cas dans ce livre, ce qui était très important, c'était d'essayer de voir ce qui, dans la création visuelle traitant de l'écologie, du combat environnemental, essayer de séparer ce qu'on pourrait dire le bon grain de l'ivraie. C'est-à-dire le bon grain, c'était les formes plasticiennes qui réellement permettent de structurer un engagement chez les spectateurs, et puis toutes ces formes qui relèvent de l'horreur délicieuse, qui avaient été très largement exploitées, bien sûr, par le cinéma, la bande dessinée, bien évidemment, qui n'a jamais eu de cesse, comme vous le savez, depuis les années 40, de développer toute cette grande mythologie de l'apocalypse, du post-apocalyptique, du désordre, de l'hiver nucléaire, de la destruction chimique. Donc c'est un livre au fond qui, et c'est bien la raison pour laquelle il s'appelle, le sous-titre est, bon, c'est un art écologique, mais création plasticienne et anthropocène, c'est-à-dire au moment où il y a une prise de conscience assez récente qui va au-delà, on pourrait dire, le seul spectacle de la désagrégation du monde, qui est un spectacle souvent fascinant, excitant, voire euphorique. On le sait très bien, on jouit tous des visions d'apocalypse, d'une manière ou d'une autre.
Et pour passer au-delà, il faut aussi passer du stade du spectacle à celui de la réflexion, de la pensée. Michael Jackson, pourquoi en ouverture? Parce que dans la première partie de la Grande Table, l'écrivain Marc Lambron et la musicologue Isabelle Petitjean nous parlaient de l'influence de Michael Jackson dans le champ de l'art contemporain. Les artistes que son corps ou son œuvre ont inspiré à l'occasion de cette exposition qui lui est consacrée au Grand Palais. On peut voir aussi comment l'époque marque à son tour les artistes d'art contemporain, les artistes plasticiens comme les chanteurs, musiciens type Michael Jackson. Bernard Stiegler, vous parlez et vous partez, comme Paul Arden, d'un combat désespéré, celui des penseurs pour vous, Bernard Stiegler, celui des artistes pour vous, Paul Arden, engagé dans une lutte pour la préservation de l'humain et de son milieu de vie. Cette différence entre l'émotion et la réflexion, entre le spectacle et la raison, elle est fondamentale pour sortir de cet état d'affliction, de désolation, et pour pouvoir engager celui de l'action, ce temps de l'action.
Alors, pour ce qui me concerne, je n'oppose pas, appelons ça l'émotion et la raison. J'arrive, comme nous tous, après Spinoza, et je pense que voilà, cette opposition qui est un peu fondatrice de la philosophie avec Platon, donc qui est aussi une opposition du corps et de l'âme, voilà, l'âme qui réfléchirait et le corps qui serait passionné, je pense qu'il faut la surmonter. Par contre, évidemment, je pense que la passion, ou ce qu'on pourrait appeler la pulsion, plus précisément avec Sigmund Freud, c'est aujourd'hui devenu une matière à exploiter de manière industrielle. Nous sommes pas seulement dans l'Anthropocène, nous sommes dans le stade final de l'Anthropocène, et ce stade final de l'Anthropocène s'appelle aussi la post-truth era, l'ère de la post-vérité. Et bon, il faudrait analyser très précisément en quoi cette ère de la post-vérité a à voir avec une exploitation systématique, industrielle et même mathématique des pulsions. Bon, je ne vais pas le faire maintenant, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Mais en revanche, ce que je crois, c'est que penser aujourd'hui doit se repenser, si je puis dire, comme Georges Canguilhem, par exemple, nous y invitait dans un livre, petit livre qui s'appelle « La connaissance de la vie », où il dit « La biologie, c'est pas d'abord un savoir académique, c'est d'abord une manière de se soigner quand on est un être humain ». Ce qu'il voulait dire, c'est ce que disait aussi Alfred Lotka en 1945 dans un texte extrêmement important et très méconnu, où dans la revue Human Biology, Lotka expliquait que l'être humain a des organes artificiels, que les organes les plus importants pour lui, ce sont ses organes artificiels, ce ne sont pas ses organes naturels, même si évidemment sans cœur ou sans cerveau il ne peut pas vivre, mais l'essentiel de la vie humaine et de son évolution est lié à des artifices. Et Lotka dit en 1945, alors qu'il vient de découvrir les terribles destructions qui ont eu lieu en Europe, les innombrables victimes militaires et civiles, il dit le problème des organes exosomatiques, c'est que si on n'a pas un savoir qui prescrit leur pratique, alors ils produisent de la destruction. Aujourd'hui, ce que nous découvrons, non pas en 1945, mais en 2018, et que nous avons commencé à thématiser au début du 21e siècle, avec Paul Crutzen qui a lancé le terme d'anthropocène, c'est que depuis 250 ans, l'explosion exosomatique voulant donc dire de production d'organes artificiels, n'a cessé de s'accélérer, de s'intensifier à travers la révolution industrielle, et nous découvrons que ce développement produit ce qu'on appelle de l'entropie, c'est-à-dire détruit les équilibres naturels, les modèles culturels, et détruit la vie, puisque nous sommes en train d'entrer dans la sixième extinction de masse. Nous sommes en plein dedans, d'ailleurs, nous ne sommes pas en train d'y entrer, nous sommes en plein dedans, mais nous découvrons maintenant que ceci arrive.
Alors que peuvent les artistes face à ça? Quel est le message qu'ils entendent délivrer? Quel est leur champ d'action à ces éco-artistes? Et d'ailleurs, de qui parle-t-on pour entrer un peu plus dans cette définition de l'art écologique? Paul Ardenne, Bernard Stiegler, je vous propose d'écouter les mots de l'artiste et activiste Gustav Metzger à l'occasion de la journée Remember Nature qu'il lançait avec d'autres.
I, Gustav Metzger. We appeal.
Bonjour, je suis Gustav Metzger. Nous faisons appel au monde de l'art, dans toutes ses disciplines, afin de prendre position contre l'effacement continu des espèces. Il n'y a pas d'autre choix que de suivre le chemin de l'éthique relié à l'esthétique. Nous vivons dans une société étouffant sous les déchets. Notre tâche est de rappeler aux gens la richesse et la complexité de la nature, et de faire tout notre possible pour la protéger. Et ce faisant, d'investir de nouveaux territoires qui sont intrinsèquement créatifs et bénéfiques pour notre monde. Nous vous invitons à répondre de manière créative à cet appel et à encourager les autres à y participer. L'objectif étant de créer un mouvement de masse à travers les arts face à l'extinction.
Voilà une vidéo extraite de la plateforme créée au début des années 2000 par un groupe d'artistes, la London Fileworks, Paul Ardenne. On entend bien la voix et le message délivré par Gustav Metzger sur cet appel à la mobilisation. Oui. Par tous les moyens.
Tardivement dans sa carrière. Metzger est mort récemment. Bon, c'est un artiste qui s'est fait connaître dans les années 1960 contre, juste par une sorte d'excitation à l'égard de la surprésence des objets qui est sous-jacent dans le propos de Bernard Stiegler. Ce qu'on vient d'entendre, le fait qu'il y a une sorte d'hyperproduction qui au fond gaspille, qui dilapide en quelque sorte notre capital. Il était le fondateur du destructive art, l'art destructeur. Il faisait des performances à Londres en détruisant des choses. Ça lui a valu d'ailleurs beaucoup de souci avec la police et la justice. Et récemment, il a pris un tournant et il a fait plusieurs œuvres très spectaculaires, des performances de rue avec des automobiles, par exemple, dont le tuyau d'échappement, automobile thermique, était relié à une sorte de vitrine de verre placée sur la galerie du véhicule avec une très belle plante à l'intérieur, plante qui évidemment, à mesure du déplacement du véhicule dans les villes, eh bien crève. On la voit en quelque sorte mourir sous l'effet de la pollution automobile ici. Voilà.
Et le destructive art, c'est le revers de la médaille presque de l'art du recyclage qui a été pensé et développé par des artistes comme Armand jusqu'à César et dont
vous
parlez. Oui, mais
ils n'ont rien à voir avec, évidemment, ils n'ont absolument rien à voir. Quand on parle d'un art écologique, il faut bien s'entendre. Bon, c'est une classification. On ne va pas en faire un label. Moi, je n'ai pas souhaité en faire un label. Disons, c'est plus une attitude, c'est un positionnement d'artistes qui se disent, bon, que faire voilà, que faire, au fond, pour contribuer, pour faire ma part. Hein. C'est cette obsession, je crois, pour intégrer le mouvement de l'art dans un mouvement plus vaste que Guattari avait appelé l'écosophie. Dans les années 80, Guattari avait théorisé cette question d'une société nouvelle, écosophique, un nouveau contrat social dans lequel, finalement, non seulement on respecterait notre environnement, mais à terme, on se respecterait aussi nous-mêmes. Bon, en simplifiant, si vous voulez, toutes ces données-là. Et alors, ces artistes de l'écologie, moi, qui m'ont beaucoup intéressé, ont plusieurs attitudes, évidemment. La première des attitudes, c'est de faire un constat. Ils font un constat clinique. Il y a énormément d'artistes qui font des constats cliniques, avec leur manière, avec la vidéo, les documentaires, la vidéo d'exposition, etc. Il y en a d'autres qui dénoncent. Il y a un très fort travail de dénonciation qui passe souvent par les images photographiques spectaculaires. Et puis, il y a quand même la dernière partie du livre qui est pour moi pose la question de ce qu'on pourrait appeler un art de l'anthropocène à proprement parler. C'est-à-dire des artistes qui vont changer totalement le rapport d'une part, que l'artiste a à l'œuvre d'art, première chose, et secondo, à sa destination. En faisant du spectateur un spectateur, hein, comme on dit souvent, bon, quelqu'un qui soit émancipé, justement comme Rancière le disait, mais émancipé au point d'arrêter de regarder et de contribuer lui aussi. D'où l'importance des artistes jardiniers, par exemple l'importance des collectifs activistes donc, qui essaient de solliciter les populations à tout niveau, que ce soit pour la défense d'écosystèmes locaux, que ce soit donc pour magnifier tel ou tel, je sais pas, des espèces animales ou autres. Alors, ce que disait Bernard Siegler, pour moi, est important. C'est pour ça que j'ai souhaité, avec Bruno Vachkop, mon éditeur, son intervention. C'est que depuis la technique et le temps, justement, il avait pointé cette graduelle, on pourrait dire ce graduel déphasage, hein, entre le fait d'habiter un monde et, d'une certaine manière, le fait de cohabiter avec ce monde. Hein, il y a cet écart qui est très fort dans sa pensée. On avait déjà travaillé ensemble au Centre Pompidou, hein, sur la question de la culture des amateurs à l'IRI, à l'Institut de Recherche Industrielle. Et bon, j'étais très honoré que Bernard Siegler donne cette préface qui, justement, c'est intéressant. On s'est retrouvé dans le cadre d'une conférence à la Cambre au même moment, donc il y a quelques temps en Belgique, et on parlait tous les deux de l'anthropocène, mais avec deux approches différentes. La mienne, c'était celle: comment l'art peut-il esthétiser, poétiser ce moment très complexe, ne serait-ce que sur la définition, parce qu'il n'y a pas d'accord. Anthropocène, c'est une définition de chimiste. Crutzen est un chimiste. Si vous prenez des géologues, par exemple, ils ne sont absolument pas d'accord. Ils considèrent que, bon, même si récemment ils ont accepté dans un congrès que ce terme soit accepté, bon, il y a beaucoup de contestations. Moi, je parle plutôt du néolocène. Hein. J'ai un grand référent qui est un géologue qui s'appelle Jean-Paul Barusseau, très grand sédimentologue, bon, qui explique ça dans des revues très savante, ça me plaît plus que anthropocène, qui est un terme un peu à la mode aujourd'hui. Même on en fait des films, hein. Vous avez vu le film canadien qui vient de sortir, très spectaculaire. Bon, voilà.
Et donc la question que vous posez, oui, comment l'art peut esthétiser?
Voilà, c'est-à-dire justement, il peut esthétiser dans la mesure où il lie un concept d'éthique, ouais, c'est-à-dire d'investissement personnel de l'ordre d'une morale supérieure, qui est celle de la préservation vitale, à justement la confection de formes qui évoquent la nature, qui peuvent être très diverses. Le livre est très détaillé, je pense que vous avez vu. Bon, je peux pas donner ce qu'est ce détail ici, ce serait évidemment ennuyeux et de toute façon impossible, mais vous avez aussi bien des artistes qui travaillent dans le paysage, qui font des travaux de remédiation comme Melchin, par exemple. Il reconstitue des écosystèmes locaux, que des artistes qui luttent contre des projets écologiques, donc en motivant les populations comme Maria Teresa Alves ou beaucoup d'autres. Il y a un très très large spectre dans cette œuvre, ce type d'art-là. Et ce qui est intéressant, c'est comment les manières de faire art, la fabrique de l'art, se modifient complètement. Et c'est ça qui m'a posé question. J'essaie d'y répondre dans la dernière partie du livre. C'est-à-dire, quel type d'art pour une société dont l'essentiel de la préoccupation dorénavant sera de survivre à elle-même, survivre à sa propre capacité d'autodestruction. Il est clair qu'on peut plus se contenter de regarder des photos ou de voir un bouquet de Jeff Koons devant le petit palais et trouver que c'est formidable.
Bon, non, mais chemin faisant quand
ça
même
appartient
pour la
à, ouais, à l'académisme ancien, à une histoire aujourd'hui très ancienne, très dépassée.
Avant d'interroger la finalité, l'objectif recherché, Paul Ardenne, vous refaites quand même aussi une histoire de cet art écologique pour nous aider à comprendre et à en saisir les particularités. Vous racontez ses débuts, en tout cas vous les datez comme tels, dans les années 70 avec le mouvement Monoa, l'école des choses.
Oui, un peu avant même au Japon, oui.
Voilà, vous revenez aussi ensuite au Land Art.
Oui, alors qui est anti-écologique essentiellement, associé, hein, ouais, parce qu'il est destructeur, hein, c'est un art violent, on fait ça à la dynamite.
Mais c'est un art qui s'inscrit in situ, in natura.
Oui, il a poussé les gens à aller vers les territoires naturels d'une certaine façon. Bon, sachant que la ville fait aussi partie, c'est aussi un territoire de l'anthropocène. On pourrait presque dire c'est le territoire par excellence de l'anthropocène. On l'oublie souvent. Regardez, vous allez à la Défense, tout est absolument anthropisé. Il n'y a absolument plus rien de naturel. Le naturel a été absolument anéanti. Même des pays comme la Hollande, par exemple, ce pays où il n'y a plus rien de naturel. Même dans un champ, on va vous mettre une piste cyclable. Enfin, vous voyez, on va vous mettre des petites jardinières partout, comme si la nature était haïssable au fond. Hein.
Et vous insistez sur un point commun, une caractéristique de ces éco-artistes. Pour vous, il faut quand même que tout commence par une prise de conscience.
Bien sûr.
C'est que c'est pas simplement l'utilisation de matériaux naturels, de bois ou de papier. C'est quand même d'abord une prise de conscience. Ce sont des artistes qui se vivent peut-être pas comme des vigiles directement, mais en tout cas comme des artistes avertis et responsables, oui, par rapport à la matière,
sûr,
avec laquelle ils travaillent.
C'est la question de la responsabilité.
Et de la vérité aussi, Bernard Stiegler. Voilà. Parce que c'est quand même une forme de vérité que ces artistes travaillent aussi.
Alors, je rends
Là, il faut être un peu critique quand même. Hein. Quand par exemple, Gustav Metzger parle de protéger la nature, ça n'existe pas la nature. C'est un concept qui date... à Newton, il y a encore une nature. Je veux dire par là que si on appelle nature, au sens où Rousseau parle de nature, par exemple, un grand processus d'équilibre, on sait très bien aujourd'hui que l'univers n'est pas en équilibre. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est ça que j'appelle penser, précisément. Penser avec un A, mais aussi avec un E. Il faut prendre soin, mais pour prendre soin, il faut un peu penser, précisément. Et donc, ces concepts, par exemple, la nature qu'il faudrait protéger, etc., c'est du passé. Donc, c'est aussi passé que Jeff Koons, voilà. Ce que je crois, c'est qu'il y a un travail très 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 important de requalification de tous nos concepts opérés, et dans une situation extrêmement complexe, d'extrême urgence. Car c'est pas simplement les artistes qui devraient se mobiliser sur un art, un éco-art. D'ailleurs, tout le monde doit se mobiliser. Nous sommes dans une situation absolument catastrophique. Voilà.
Se mobiliser pour dire quoi?
La question, c'est de savoir comment se mobiliser. Bon. Moi, je me suis beaucoup intéressé à la sculpture sociale de Joseph Beuys. Et je travaille avec l'école de Dublin, l'école d'art de Dublin. Non pas exactement sur, ils appellent pas ça eux, la sculpture sociale, mais c'est cette démarche qui consiste à mobiliser le corps social. Bon, les artistes aujourd'hui doivent répondre à l'impératif de, pas simplement de mobiliser, de faire prendre conscience, mais de modeler collectivement un espace de vie nouveau.
Ce qu'il avait réussi à faire en 82,
Avec les 7000 chaînes.
Je vous parle de Beuys parce que c'est un point de départ, mais ce que je crois, c'est qu'il faudrait rester un peu dans les concepts.
Mais il faut raconter peut-être, je pense qu'il faut peut-être aussi concrètement raconter en quoi c'est un point de départ pour vous. Juste illustrer.
Si vous voulez, Joseph Beuys s'opposait au consumérisme, appelons-le comme ça. Il s'opposait aussi à une conception consumériste de l'art.
Il avait une Rolls blanche quand même. Peu de gens le savent. Mais,
ne brouillez pas les cartes.
il posait que, voilà, le travail de l'artiste, c'est de faire en sorte que tous les destinataires de ces travaux soient mis en position eux-mêmes d'artistes. Ça a été très mal compris, ce dispositif. Moi, j'ai essayé de faire une comparaison avec la philosophie. Quand, par exemple, Socrate dit que voilà, je peux parler avec tout le monde, c'est parce que tout le monde est philosophe en puissance. Ça ne veut pas dire que tout le monde va devenir philosophe comme Socrate. Mais si on ne s'adresse pas à cette dimension de celui à qui on parle, et c'est le cas d'un prof de philo qui enseigne au lycée ou à l'université, ça ne peut pas fonctionner. Beuys dit des choses comparables par rapport aux œuvres d'art. Après, quand je dis ça, je ne suis pas en train de soutenir Beuys en tant que tel, c'est pas la question. En revanche... ce que je crois, c'est que il faut bien comprendre aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qu'un artiste? C'est quelqu'un qui travaille avec des artifices. Et essentiel, uniquement. Voilà. Et qu'est-ce que c'est que le problème de l'anthropocène? C'est que les artifices détruisent l'espace vital. À partir de là, la question c'est qu'est-ce qu'un artifice? Un artifice, Socrate disait, c'est un pharmacon, c'est-à-dire que ça peut remédier, mais ça peut être aussi un poison. Aujourd'hui, les artifices deviennent des poisons absolument dans tous les domaines. Il est fondamental que le monde artistique se mobilise, mais qu'il se mobilise pas simplement pour faire de la sculpture sociale, d'ailleurs au sens de Joseph Beuys, je suis pas en train d'essayer de restaurer ça, mais par contre, pour développer quelque chose que nous faisons en ce moment en Seine-Saint-Denis avec Pleine Commune et qui consiste à développer une nouvelle pratique de l'économie industrielle, une nouvelle économie politique, si on peut dire, avec les habitants de la Seine-Saint-Denis, pour essayer de faire en sorte que leur pratique, par exemple, du smartphone, devienne une pratique thérapeutique et soigneuse, et non pas une pratique destructrice. Aujourd'hui, tout le monde sait que l'addiction ruine la vie des gens, mais il faut changer ce rapport-là. Et pour ça, nous pensons qu'il faut développer une recherche contributive. C'est-à-dire que c'est pas simplement une question pour les artistes, c'est une question pour les universitaires, c'est une question pour tous les gens qui ont des responsabilités, pour les services publics. Et donc il faut inventer dans la situation actuelle, une méthode de travail qui va permettre, dans les 10 ans qui viennent, de faire véritablement des transformations sociales majeures.
Et des avancées. Vous évoquiez Joseph Beuys, on reparlait donc de cette vaste opération qu'il avait lancée à Cassel à l'époque, de replanter 7000 chênes devant le regard hagard de tous. L'arbre, la forêt qui occupe une place centrale dans le travail de ces éco-artistes, Paul Ardenne, et vous le racontez parce que l'arbre à l'ère anthropocène dans laquelle nous sommes est à la fois victime, c'est la déforestation, et solution, c'est l'élimination du carbone. Un double statut qui en fait un être qu'on va dire idéal à deux titres, tant pour déplorer un gâchis que pour fonder une espérance. Je vous propose d'écouter un autre artiste, l'artiste italien Giuseppe Pennon, un des grands représentants de l'Arte Povera.
Je crois que le sentiment de la nature, c'est quelque chose qui est transversal dans l'histoire de l'homme, qui touche toutes les existences, et que selon le moment historique est plus ou moins apprécié ou plus ou moins mis en valeur. Mais ça dépend justement du moment historique. Quand j'ai commencé à travailler, c'était un moment qu'on avait oublié la nature. L'histoire de l'art du 1900 était concentrée sur la ville, sur une réflexion totalement anthropomorphe de la vie et de la vision des choses. Mais c'était quelque chose qui s'est passé chez les artistes de cette époque, dans plusieurs pays, avec des manifestations qui ont été différentes selon les lieux, mais avec le même problème, le même propos qui était de l'homme vis-à-vis d'un espace extérieur, vis-à-vis de la nature.
C'est intéressant parce que Giuseppe Pennon, dans cet extrait, Paul Ardenne s'interroge sur le sentiment de nature et son inscription aussi, sa valorisation à travers l'histoire humaine. Où en sommes-nous aujourd'hui? Vous prenez acte notamment pour les artistes du grand problème d'échelle dans lequel auquel ils sont confrontés, eux, face à cette catastrophe écologique et à cette temporalité très particulière.
Bien sûr, il y a une évolution qui est intéressante. Si on écoute Pennon, c'est pas essentiellement un artiste de l'écologie, c'est plus un artiste qui baigne dans la nature à Garesio, là où il a grandi, dans le Piémont, où il travaille d'ailleurs. C'est un artiste qui est fascinant à bien des égards, non pas tant parce qu'il a une fascination des arbres, etc., que parce qu'il réalise quelque chose que bien peu de gens ont vu. C'est presque l'envers de la métamorphose de Kafka. On pourrait dire 60 ans après ou 50 ans après. Chez Kafka, il y a un devenir animal terrifiant de l'individu, et Gregor Samsak, transformé en cafard, on ne peut pas vivre. Au fond, on n'est pas fait pour ce monde. Chez Pennon, c'est l'inverse. C'est quelqu'un qui va, par exemple, mettre des pommes de terre dans des masques de son propre visage, ou donc des formes d'oreilles qui sont prises sur son propre corps, et qui va leur donner cette forme, avec un effet de fusion beaucoup plus fort, et on pourrait dire une sorte de... Alors c'est un mot, Bernard Stiegler hurlerait sans doute, une sorte de naturalité donc qui est donnée à la création artistique en créant un mécanisme d'équivalence. C'est-à-dire, on peut vivre dans ce monde, on peut même rappeler que dans ce monde, nous ne sommes pas une espèce de dominante, enfin, même si on est en haut de la chaîne alimentaire, le grand prédateur, l'humain est ça, mais que nous pouvons vivre donc avec. Voilà. Alors, ce n'est pas un artiste de l'écologie à proprement parler, c'est un artiste intermédiaire. C'est quelqu'un qui renverse un petit peu ces sortes de codes mentaux de l'Occident moderne, dans le sens d'une approche beaucoup plus sensorielle, affective, et on pourrait presque dire biologique de la nature, en rappelant que nous aussi nous sommes nature d'une certaine façon, quoi qu'on en pense par ailleurs.
Mais et on a envie de dire, et il ne prétend pas à plus.
Non, il prétend pas à plus, c'est très bien. Par contre, ceux qui viennent après lui développent cet aspect en disant nous sommes nature, mais nous devons l'être plus, justement en montrant comment on peut valoriser cette forme de symbiose, cet élément symbiotique, si vous voulez, qui fait que définitivement nous sommes des êtres naturels, que nous le voulions ou non, même si nous sommes à détruire, en quelque sorte, la branche sur laquelle nous sommes assis. On pourrait dire que le fondement le plus important de l'art écologique, le véritable, c'est ce qu'on a appelé le care. C'est très intéressant, c'est le soin. Et il y a un lien ici très fort. Vous savez que ce qu'on appelle le soin, ça vient de... Le mot savant, c'est l'éthique de la sollicitude, en quelque sorte. C'est un mouvement essentiellement d'abord féminin, puisque masculin, qui est né dans les années 80-90, dans les milieux hospitaliers en particulier. Beaucoup d'infirmières, les infirmiers étaient en grève d'ailleurs hier, mais pour rappeler qu'ils sont très importants, juste avec ce désir, respectons les malades, entourons-les. Voilà. Eh bien, ces artistes sont, d'une certaine manière, des formes d'infirmiers et d'infirmières, c'est-à-dire des gens qui disent... Ce monde, respectons-le, entourons-le de soins, sans tomber dans une sorte de béatitude amoureuse, avec plus ou moins de réussite plasticienne. C'est ainsi que ça opère. Alors, ça peut aller d'artistes qui font de la remédiation, comme on disait tout à l'heure, à d'autres artistes, comme Olga Kiseleva, par exemple, qui travaille des scientifiques de l'INRA, qui redécouvre, qui fait redécouvrir les gènes, l'ADN de plantes qui ont disparu, et qui, avec eux, reconstitue ces plantes et les replante, en quelque sorte. Hein, voilà, c'est, avec évidemment entre les deux toute une gamme de propositions que j'ai essayé de développer dans ce livre, non d'une manière exhaustive d'ailleurs, mais en appelant à d'autres études plus poussées pour ouvrir à cette forme d'art et à sa connaissance qui à mon avis reste totalement insuffisante, en particulier en France. La France est un pays totalement retardataire ces questions par rapport aux États-Unis d'Amérique, à l'Angleterre, à l'Allemagne aussi, au Japon également. Bon, nous avons un problème ici en France avec les choix, essentiellement les choix ou institutionnels ou financiers relatifs à l'art contemporain, et ça opère une sorte de blackout, hein, si vous voulez, contre lequel il faudrait lutter aussi. Ça fait aussi partie de la lutte pour justement affaiblir l'anthropocène.
C'est un art de la sensibilisation et de la prise de conscience plus qu'un art de la dénonciation de certaines pratiques, comme on peut l'entendre dans cette opération manifestation. Alors là, c'est une association environnementale hein, qui mène des performances dans des lieux, des places fortes de l'art. On passe de l'artivisme à l'activisme et peut-être que ces opérations sont d'ailleurs alliées ensemble. Bernard Stiegler, pour conclure avec vous, qui peut se prétendre véritablement éco-artiste aujourd'hui ? C'est-à-dire qui peut délivrer ?
J'en sais rien du tout, je connais absolument rien à tout ça et moi je ne parle pas de ces questions. Je ne sais pas si vous avez lu ma postface. Je pense que nous avons un impératif de changer radicalement nos façons de penser, de voir. Et de, par exemple, nous devons absolument relire ce que Vernadsky...
D'accord. Donc, est-ce que l'art peut changer notre façon de voir ?
Mais bien entendu que l'art peut changer notre façon de voir. Mais l'art, c'est pas... Si vous voulez, qu'est-ce qui s'est passé à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle ? Il s'est passé ce qui a transformé la place de l'art dans la société. Il s'est passé que Goethe, par exemple, parle de l'art, de la poésie, de la physique, des couleurs, etc., etc. Il s'est passé, à la fin du 19e siècle, des très grandes transformations qui étaient des transformations de la sensibilité articulées directement, par exemple avec la psychanalyse, avec Nietzsche, etc. Donc aujourd'hui, il faut déspectaculariser l'art. L'art est devenu une espèce de fonction esthétique absolument lamentable, qui est un des acteurs de cette anthropocène, et c'est la responsabilité de nous tous, qu'on soit artiste, philosophe, journaliste, etc., de prendre la responsabilité face à ça. Il s'agit plus simplement de prendre conscience d'une situation. Il s'agit de la transformer fondamentalement et de se remuer vraiment et d'arrêter de ronronner.
Mm-hmm. S'il est vrai que l'art est une expérience de la vérité, s'il est vrai qu'elle est l'expérience la plus paradoxale et en cela la plus puissante de la vérité, voilà ces questions que vous posez dans cette postface. J'invite les auditeurs donc à la lire, la question d'élucider le rapport de l'art avec la vérité. Merci beaucoup à vous Bernard Stiegler d'avoir tenté de synthétiser un peu tout ça avec nous. Merci mille fois à vous Paul Ardenne. Merci. Un art écologique, création plasticienne et anthropocène vient de paraître aux éditions du Bordelot. Et merci à toute l'équipe de La Grande Table.